Radio Prague, les informations. Bonjour, Václav Havel fête ses 75 ans ce mercredi. En relation franco-tchèque, le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, sera à Prague ce jeudi. Et puis enfin, énergie solaire, une centaine d'investisseurs réclament des dommages à l'État tchèque. Comme annoncé en titre ce mercredi, Václav Havel, ancien président, dramaturge, ancien dissident également sous le régime communiste, fête ses 75 ans. Né le 5 octobre 1936 dans une famille de la bourgeoisie tchèque, Václav Havel a été un acteur majeur de l'opposition au régime communiste, notamment à partir des années 1970. Déjà engagé dans un combat démocratique au moment du printemps de Prague en 1968, c'est toutefois surtout avec la charte 77, document demandant au parti communiste de respecter les droits de l'homme qu'il s'est fait connaître. Václav Havel a passé plusieurs séjours en prison avant de devenir le leader en 1989 de la révolution de velours, premier président de la Tchécoslovaquie démocratique, puis deux fois président de la République tchèque après la séparation avec la Slovaquie. Václav Havel reste encore aujourd'hui une figure majeure de la scène intellectuelle tchèque. Suite à la révocation de Petr Fuksa, mardi, le président de la République, Václav Klaus, nommera un nouveau ministre de l'Agriculture ce jeudi après-midi. Mercredi soir, le premier ministre Petr Nečas a refusé de communiquer le nom du nouveau ministre. Selon les médias tchèques, il s'agirait toutefois de l'ancien président de la région de Bohême centrale, Petr Bendel, lui aussi membre du Parti civique démocrate ODS, principale formation de la coalition gouvernementale. Relations franco-tchèques, le ministre français de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire, Bruno Le Maire, sera en République tchèque ce jeudi dans le cadre des discussions sur l'avenir du Programme européen d'aide alimentaire aux plus démunis, PEAD, et sur la politique agricole commune de l'après-2013. À Prague, Bruno Le Maire poursuivra d'abord ses démarches diplomatiques en vue du prochain Conseil des ministres de l'Agriculture de l'Union européenne, prévu le 20 octobre prochain, suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne annulant certaines dispositions juridiques du PEAD, programme qui permet de nourrir 18 millions d'Européens. Bruno Le Maire sera reçu à Prague par le Premier ministre tchèque Petr Nečas et au ministère de l'Agriculture. Une centaine d'investisseurs tchèques et étrangers dans le domaine de l'énergie solaire réclament une compensation financière à l'État tchèque, et ce suite à l'entrée en vigueur cette année d'un paquet de mesures comprenant notamment un taux d'imposition de 26% jusqu'à la fin 2014 sur l'électricité produite par les centrales solaires d'une capacité supérieure à 30 kW mise en service en 2009 et 2010. Par ailleurs, les donations pour les droits d'émission de gaz à effet de serre sont imposables à un taux de 32%. Tandis que le montant des taxes pour l'occupation des terrains agricoles sur lesquels sont installés les parcs solaires a été augmenté. Cet argent ainsi récolté est reversé aux sociétés distributrices d'électricité afin qu'elles ne soient pas contraintes de procéder à une trop forte augmentation de leurs tarifs. Si les demandes de dommages des investisseurs sont reconnues recevables, l'État tchèque pourrait être contraint de leur verser plusieurs milliards de couronnes. Le ministre des Finances a reconnu avoir reçu plusieurs réclamations faisant référence aux différents contrats binationaux portant sur la protection des investissements. Une conférence de deux jours consacrée au laser Eli et à son apport pour la République tchèque a débuté à Prague ce mercredi. Des scientifiques d'Europe et des États-Unis, des représentants du ministère de l'Éducation et de l'Académie des sciences qui dirigent le projet s'y rencontrent. Le projet européen Eli prévoit en effet la construction pour 2016 du principal élément d'un laser ultra puissant unique au monde dans la commune de Dolní Březany, dans la banlieue de Prague. On termine avec un mot de météo après une journée de mercredi marquée par un temps essentiellement couvert. C'est un temps cette fois variable qui règne sur la majeure partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Hanouches. Les nuages seront de retour en fin de journée et pourraient entraîner quelques averses. Les températures, elles, varient entre 19 et 23 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour, dobrý den, bienvenue à l'écoute. Merci à Guillaume Narguet pour ce bulletin d'information. Vous êtes toujours sur Radio Prague à l'écoute du programme en français. Aujourd'hui au programme, nous parlerons de l'inauguration de la statue du président américain Woodrow Wilson devant la gare principale de la capitale tchèque à Prague. Et puis Magdalena Hrozinková vous parlera de l'anniversaire de sans doute le plus célèbre des Tchèques, Václav Havel, qui fête ce mercredi ses 75 ans. Dans la deuxième partie de ce programme, nous parlerons d'un nouveau chapitre de l'histoire avec la deuxième partie de l'entretien réalisé par Paul Bauer avec Michel Perotino sur l'histoire du Parti communiste. Voilà pour le programme, très bonne écoute. Près d'un siècle après son élection, Woodrow Wilson n'est pas un des présidents américains les plus célèbres dans son pays natal. En République tchèque, cependant, Wilson est une rockstar. Ce passage est tiré de l'article du quotidien Washington Post, daté de ce mercredi, jour de l'inauguration officielle à Prague, de la statue du président des États-Unis qui a joué un rôle majeur dans l'histoire de la fondation de la Tchécoslovaquie. Cette statue a été érigée le mois dernier devant la gare centrale de Prague, une gare qui a longtemps porté le nom de gare Wilson. Il s'agit d'une copie de la statue originale inaugurée en 1924, une statue qui fut détruite par les nazis en 1941. La cérémonie officielle d'inauguration a rassemblé plusieurs personnalités, dont Václav Havel et Madeleine Albright. À la tribune, c'est d'abord l'actuel président de la République tchèque, Václav Klaus, qui a insisté sur la portée symbolique du retour de cette statue.
Podobně jako se sem vrátila tato socha,
de la même manière que cette statue est revenue ici, nous sommes également ces deux dernières décennies revenus aux idées de liberté, d'économie de marché et de démocratie que beaucoup d'entre nous ont toujours partagées avec les États-Unis malgré les régimes et gouvernements qu'il y a eu chez nous.
Le monde doit être rendu sûr pour la démocratie. Ces mots du président Wilson sont inscrits en tchèque et en anglais sur la statue haute de plusieurs mètres, 3,5 mètres plus exactement, qui doit sa réinstallation à l'initiative de l'Association des Amis Américains de la République tchèque.
Much of the damage that the Nazis caused can never be undone.
Pour Madeleine Albright, beaucoup des dégâts causés par les nazis ne pourront jamais être réparés, mais réinstaller la statue de Woodrow Wilson à sa place est une réponse directe à Hitler et Heydrich. C'est en effet Reinhard Heydrich qui avait donné l'ordre de détruire la statue après l'entrée en guerre des États-Unis. Il fut tué l'année suivante par des résistants tchécoslovaques. L'actuel ambassadeur américain Norman Eisen, tout comme Madeleine Albright, a des racines dans l'ancienne Tchécoslovaquie, des racines qu'il a évoquées dans son discours ce mercredi.
Men, women and children from across the land of Czechoslovakia.
Hommes, femmes et enfants à travers toute la Tchécoslovaquie reconnaissaient le rôle du président Wilson dans l'établissement de la nation tchécoslovaque et reconnaissaient ce monument pas seulement matériellement mais aussi sentimentalement. Je sais parce qu'un de ses enfants, une petite fille de 5 ans, qui aimait admirer le président Wilson dans le village reculé de Sobrance, c'était ma mère.
In the remote village of Sobranca was my mother.
Ce mercredi 5 octobre, l'ex-président tchèque Václav Havel fête ses 75 ans. Visiblement affaibli par une maladie des voies respiratoires dont il a été victime au printemps dernier, l'ancien président a réapparu en public à l'occasion de son anniversaire, très remarqué par les médias nationaux. Ces médias s'interrogent entre autres sur ce que signifient les idéaux prônés par l'ancien dissident et artisan de la révolution de velours, d'abord adulé puis critiqué pour la société tchèque aujourd'hui. Magdalena Hrozinková.
Je suis un pravdoláskař ordinaire, se confie Karel Škrabal, journaliste du quotidien Mladá Fronta Dnes, en employant un terme tchèque inventé, dérivé des mots pravda et láska. Un pravdoláskař est donc quelqu'un qui est persuadé, comme Václav Havel, que, je cite, « la vérité et l'amour doivent l'emporter sur le mensonge et la haine ». Le quotidien économique Hospodářské noviny se souvient du 4 octobre 2007 où il a proposé à Václav Havel de devenir pour une journée son rédacteur en chef. Soyez rapide et intransigeant, a conseillé aux journalistes l'ancien président en discutant avec eux du football, des films projetés à Cannes ou du réchauffement climatique, un de nombreux points où les opinions de Václav Havel et de son successeur au château de Prague divergent. Par ailleurs, pour ce numéro spécial, Hospodářské noviny a posé à plusieurs personnes personnalité tchèque la question hypothétique de savoir si, depuis 1989, la vérité et l'amour l'ont vraiment emporté sur le mensonge et la haine. 22 ans après la chute du communisme, les Pravda Laskaje sont souvent la cible de moqueries et les médias tchèques ont pris l'habitude de diviser le public en deux groupes, les Havlovce et les Klausovce, donc entre ceux qui partagent la vision du monde de Václav Havel et de Václav Klaus. Dans le supplément de Hospodarské noviny entièrement consacré aux photographies de Václav Havel, l'écrivain Jáchym Topol constate qu'à la fin de sa vie, Václav Havel est, je cite, « traîné dans la boue, accusé coupable de crimes de toutes sortes et d'erreurs incroyables ». Il conclut, non sans amertume, qu'avec le temps, cette critique affolée se transformera, comme de coutume, en un piédestal. Jana Machalitska, journaliste du quotidien Lidové noviny, a décompté que le mois dernier, la presse tchèque a consacré à Václav Havel précisément 674 articles. Selon elle, les critiques de Václav Havel se recrutent surtout parmi ceux qui n'oseraient ni prononcer ni défendre leurs opinions sous le régime communiste. Ce qui est source d'inspiration chez Havel, écrit-elle, c'est qu'il n'a jamais cessé de croire en la volonté de l'homme, en sa capacité d'imposer celle-ci. Enfin, dans l'édition de samedi de Lidové noviny, l'ancien directeur de la bibliothèque de Václav Havel, Martin Putna, dresse le portrait de l'ex-président, un portrait qui se veut être spirituel. Pour lui, Václav Havel entre à ses 75 ans dans une période de déclin du jour où l'activité laisse place à la contemplation et où, sous une lumière tamisée, les objets comme les gens apparaissent plus beaux et plus vrais. Dans ce portrait, Martin Putna constate que, je cite, « tous les mythes tchèques sont accompagnés d'échecs. Václav Havel a été considéré comme étant trop moraliste, trop spirituel, trop pro-européen ou pro-américain, trop multiculturel, trop écologique, trop anticommuniste, trop pro-capitaliste. » Et Martin Putna de conclure que l'échec du rêve de Václav Havel à propos d'un État tchèque spirituel est le troisième rêve de ce genre qui ne s'est pas réalisé. Charles IV et Tomáš Garrigue Masaryk avaient eux aussi des projets similaires, projets qui ont échoué mais dont plusieurs générations ont néanmoins hérité des valeurs importantes.
C'est la suite du programme en français de Radio Prague, tout de suite maintenant avec un nouveau chapitre de l'histoire. Le 17 novembre prochain, la République tchèque fêtera le 22e anniversaire de la chute du régime communiste. Au micro de Paul Bauer, Michel Perotino, politologue et spécialiste du Parti communiste de Bohême et de Moravie, est revenu sur l'histoire du Parti communiste tchèque. C'est aujourd'hui la deuxième partie de cet entretien.
Chapitre de l'histoire.
En 1948, Gottwald prend le pouvoir. Le parti communiste tchécoslovaque est bolchevisé, on peut dire ainsi. Quelle est la différence entre ce parti et ceux qui se sont constitués dans les, ce qu'on appelle les pays frères en Europe centrale?
Alors, le parti est bolchevisé, oui et non, dans la mesure où il y a déjà une mutation, notamment générationnelle, très importante. Une partie des communistes n'a pas survécu, par exemple, à la guerre. Ils bénéficient d'une légitimité qui n'est pas forcément utile ou utilisable par la nouvelle direction. Donc, c'est déjà un parti qui a beaucoup évolué depuis l'entre-deux-guerres. Par contre, évidemment, la très grande différence par rapport au parti frère, entre guillemets, d'Europe centrale, c'est tout simplement que le parti communiste de Tchécoslovaquie bénéficie de cette histoire déjà relativement longue, et au contraire, par exemple, des partis en Pologne, en Hongrie, par exemple, ou en Allemagne, le parti communiste est présent. Il n'a pas besoin d'être importé ou réimporté avec les chars libérateurs.
Est-ce qu'il sert de modèle, en quelque sorte, pour les autres partis qui prennent le pouvoir dans les autres pays en Europe centrale?
Je pense que chaque parti va essayer de construire sa propre identité, évidemment en conformité avec la centrale moscovite, mais sans forcément s'inspirer directement, en tout cas, de l'exemple tchécoslovaque.
Donc il y a une voie tchécoslovaque du communisme, comme il y a une voie polonaise vers le communisme. Est-ce qu'on peut parler finalement d'un communisme national, d'une certaine manière, malgré la mise en avant du principe de l'international?
L'internationalisme, c'est un principe qui ne peut pas être mis en question. Une voie nationale, je dirais pas une, mais des voies nationales, ou en tout cas des voies tchécoslovaques vers le socialisme.
Des voies au pluriel.
Oui, parce que le terme de voie tchécoslovaque vers le socialisme, c'est un terme qui apparaît déjà dans les années 20, notamment porté par Šmelar à l'époque, qui est réutilisé après la guerre et qui va avoir plusieurs contenus qui ne sont pas complètement identiques. C'est aussi un parti qui va s'inscrire dans l'internationalisme en luttant par exemple contre ce qu'il appelle le nationalisme. Et un de ceux qui va être purgé, qui va passer en prison 9 ans pour nationalisme bourgeois, c'est Gustave Husák.
En 1989, le régime s'effondre. Quelle est la différence entre le parti de 1948 et celui qui disparaît lors de la révolution de velours?
Alors, des différences, il y en a évidemment beaucoup. La première différence, la différence vraiment la plus importante, c'est évidemment ce qui s'est produit en 1968. On va revenir là-dessus tout de suite. Première remarque, donc, comme tout parti au pouvoir, il y a une mutation continue du parti qui est en train de, encore une fois dans un contexte semi-pluraliste, on oublie souvent de dire que le parti communiste était certes le parti dominant, mais il y avait d'autres partis qui venaient légitimer cette situation dominante. Donc le parti est en train de fonder sa république, république d'ailleurs qui se transforme, pas que symboliquement. En 1960, la Tchécoslovaquie, qui à l'époque est encore démocratie populaire, devient république socialiste dans la perspective, disons, du mouvement communiste ou de l'édification du socialisme ou du communisme. C'est un passage qui est très important et qui ne sera pas, par exemple, atteint par d'autres pays d'Europe centrale.
À quel moment cette étape importante du développement du parti et de la société vers le socialisme et le communisme ensuite se fait en Tchécoslovaquie?
C'est le processus qui s'est produit dans les années 50. D'ailleurs, un processus qui est là aussi un petit peu compliqué, ambigu, parce que d'un côté vous avez un parti communiste qui se définit comme l'avant-garde du prolétariat, et cette avant-garde, en fait, elle comprend grosso modo un dixième de la population totale, y compris les enfants. Donc c'est une avant-garde assez pléthorique. Donc il y a cette mutation, cette évolution en quelque sorte naturelle. Le parti devient en fait le gérant en quelque sorte de la Tchécoslovaquie, ce qui a évidemment des conséquences très importantes puisqu'il y a beaucoup de gens qui peuvent entrer au parti pour des raisons moins de conviction que de carriérisme. Question qui va évidemment se reposer principalement dans les années 70. Mutation aussi qui se traduit finalement par une libéralisation assez nette dans les années 60, mutation qui va se terminer par l'apparition du socialisme à visage humain, qui est en très grande partie en régie directe du Parti communiste.
Ce qui mène vers 1968 finalement. L'opposition de Moscou de cette voie tchécoslovaque vers le socialisme, c'est ça?
Oui, alors évidemment, la fin, c'est effectivement cette opposition et l'intervention, pas seulement de Moscou, la plupart des pays d'Europe centrale ont participé à l'intervention, à l'exception de la Roumanie. Donc pour stopper cette expérience, qui on le sait évidemment, est symbolisée par Dubček, expérience, entre parenthèses, qui va se retrouver très fortement dans la perestroïka. C'est-à-dire que certaines recettes qui ont en partie été menées en 68 vont être réutilisées dans les années 80 par Gorbatchev.
Donc, d'une certaine manière, cette expérience tchécoslovaque a constitué un modèle d'évolution du socialisme.
Alors, modèle d'évolution, je ne sais pas si on peut parler de modèle d'évolution, mais il y a très certainement et très nettement en fait des pistes ou des passerelles entre ces deux grandes tendances ou grandes évolutions. L'autre chose évidemment qui va modifier beaucoup la donne pour le Parti communiste, c'est qu'après 1968, le parti va traverser une période de transformation très importante, transformations qui sont là aussi, pour schématiser, symbolisées par les purges qui vont avoir lieu au début des années 70, ce qu'on appelle la normalisation. La différence par exemple entre les purges des années 70 et les purges des années 50, c'est que ces purges ne se traduisent pas par des morts, mais par des évictions du Parti communiste. Donc les gens qui ne sont pas d'accord avec la normalisation sont poussés vers la porte de sortie du parti.
Alors en 1989, est-ce que le Parti communiste renie son passé? Comment il se positionne vis-à-vis de cette expérience de plusieurs décennies?
Alors c'est une expérience qui certes est longue, mais c'est une expérience qui par votre conséquence est aussi une expérience très complexe. Et par exemple, le parti va non pas renier son histoire, au contraire, il va s'inscrire dans cette histoire, mais en mettant en exergue telle ou telle figure du communisme passé. Par exemple, Schmeral est revenu ou redevenu une figure phare du mouvement communiste tchécoslovaque ou tchèque. Donc de ce point de vue-là, il se situe dans la continuité par rapport à l'avant 89. Donc c'est un parti qui ne se renie pas. De l'autre côté, et là c'est une question évidemment qui est un petit peu délicate, est-ce que le parti a ou pas fait amende honorable ou essayé de produire, disons, une forme de retour sur certains éléments de son passé ou de son rapport à l'État? À ce moment-là, certains diront qu'il l'a effectivement fait dès 89, à plusieurs reprises. C'est-à-dire que le parti s'est excusé pour ce qui s'est produit avant 89, et d'autres diront que ce n'est pas suffisant. D'autre part, quand on dit qu'il s'agit d'un parti communiste, il faudrait s'interroger sur la notion de parti communiste. À l'origine, c'est un parti révolutionnaire. C'est un parti qui est créé pour faire la révolution. Le parti communiste de Bohème et Moravie à l'heure actuelle n'est pas un parti révolutionnaire.
Comment se définit-il alors?
Il se définit comme un parti communiste, là aussi dans une dimension évidemment complexe, par référence au manifeste de Karl Marx, mais aussi par exemple par référence à la Commune de Paris. Le symbole le plus utilisé du parti communiste de Bohème et de Moravie à l'heure actuelle, ce sont deux cerises. C'est plus la serpe et le marteau. Deux cerises qui font référence à la Commune.
Et c'est avec Michel Perotino au micro de Paul Bauer que se termine le programme en français de Radio Prague pour aujourd'hui. Vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur internet au www.radio.cz pour plus d'infos en français sur la République tchèque.